Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce florilège des arts du vendredi, saint du vendredi de Pâques, joyeuse fête de vendredi saint. Et bien sûr, et je n'oublierai pas, en vous quittant, de vous souhaiter de joyeuses Pâques, sachant que je ne serai pas en direct demain. Ce sera un enregistrement qui sera diffusé dans le Libre Journal de Géopolitique Profonde samedi à partir de 9h. Chers auditeurs, je remercie bien sûr à la fois Arnaud et Claudia pour la technique et la réalisation de cette émission. Si vous avez des questions, remarques, observations à faire, et vous pourriez être amené à en faire, évidemment, durant cette émission, n'hésitez surtout pas. Passez un coup de fil au standard de la radio et si éventuellement, eh bien, le téléphone sonne dans le vide, vous avez bien sûr la possibilité, c'est le plus simple, de passer par un courriel électronique qui va m'être bien sûr transmis et je n'hésiterai pas à répondre à votre question ou à poser la question, à faire la remarque à mon invité du jour. Mon invité du jour. Qui est l'auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir et dont j'ai eu l'honneur et la chance de faire la préface. Ce livre s'appelle Apocalypse 2026. Et oui, il y a de nombreuses prophéties sur cette année 2026 et ce livre Apocalypse 2026 traite de ce sujet. Et je vous demanderai de prêter grande attention à cette émission, tout comme je n'hésiterai pas dans des émissions prochaines d'y faire à nouveau référence ou d'inviter, si c'est nécessaire, Régis Emmanuel, eh bien, dans le studio de Radio Courtoisie. Tout d'abord, parce qu'il est là, dans le studio de RC en direct, je le salue tout de suite. Bonjour, mon cher Régis Emmanuel Suire. Bienvenue dans ce florilège des arts sur Radio Courtoisie.
Bonjour Nicolas Stocker, bonjour à tous les auditeurs et merci de me recevoir sur l'antenne de Radio Courtoisie.
Eh bien voilà, c'est une première, je crois, pour vous, que l'antenne de Radio Courtoisie. Vous êtes dans le début, nous sommes dans le tout début, puisque j'en ai fait la préface et que je vous ai accompagné dans la rédaction de ce livre, de la promotion d'Apocalypse 2026. Apocalypse 2026, c'est un livre dont le point central et d'origine est une prémonition, est une intuition et une prophétie, n'hésitons pas à le dire. Christ ne clôt pas les prophéties des prophètes de Dieu, des prophètes, c'est encore quelque chose que l'on peut tout à fait envisager. Eh bien, c'est une prophétie. Et cette prophétie, elle fait penser un petit peu à la prophétie de Sodome et Gomorre. Elle fait un peu penser à la prophétie de Ninive avec le prophète Jonas, qui alerte, il alerte Jonas en disant « Repentez-vous, parce que si vous ne vous repentez pas, eh bien, le feu du ciel viendra frapper. » Et le miracle de Ninive, contrairement à Sodome et Gomorre, c'est qu'à Ninive, justement, eh bien, les habitants de Ninive, de cette cité, de bord de mer va se repentir et évitera ainsi la destruction. Est-ce qu'il y a un risque de destruction aujourd'hui? Apocalypse 2026 vise le risque, l'hypothèse est faite d'une bombe atomique qui pourrait frapper Paris. Ben oui, vous avez bien entendu, vous dites, mais Nicolas Stocker, qu'on connaît depuis des années sur Radio Courtoisie, fait, semble-t-il, cette prophétie, ou en tout cas accompagne la prophétie de Régis Emmanuel Suire, l'auteur du livre, sur cette hypothèse d'une bombe qui frapperait Paris. On le sait, il y a non seulement de nombreuses prophéties, et puis il y a le problème et la question du nucléaire qui n'a jamais été aussi présente dans le débat public, dans l'inquiétude publique. On a l'impression que le tabou nucléaire est quelque chose qui est l'ultime tabou. Sautera-t-il ce tabou? On voit bien je dirais les menaces inconsidérées qu'on fait peser sur la Fédération de Russie, nous Européens, nous Français. Il y a encore peu, le SVR, les services de renseignement russes, alertaient et avertissaient Britanniques et Français sur la possibilité de se voir frapper si ils donnaient des éléments nucléaires à l'Ukraine. C'est dire, il y a Israël, il y a cette guerre en Iran, il y a la doctrine Samson iranienne, il y a des risques, car il y a depuis quelques années maintenant, eh bien, la plupart des pays qui détiennent l'arme nucléaire sont des pays qui sont en guerre. La Russie est en guerre, les États-Unis sont en guerre, Israël est en guerre, France et Grande-Bretagne sont dans des situations où ils utilisent un proxy pour faire la guerre à la Russie. Donc vous avez de nombreux pays aujourd'hui qui sont en guerre ou à la limite de la guerre, et qui sont dotés de l'arme nucléaire, qui certes ne l'utilisent pas, car je vous le dis, c'est l'ultime tabou depuis 1945 et les frappes sur Hiroshima et Nagasaki, seule et unique frappe qui furent déclenchées de façon hostile contre deux cités du Japon. Mais depuis, il n'y en a plus eu. Mais par contre, il y a eu des tests, des essais nucléaires, bien sûr. Alors, je dirais que pour vous lire rapidement le quatrième de couverture, et puis ensuite je vais donner librement la parole à Régis, Emmanuel Suire. On est dans une espèce de calendrier ou de compte à rebours. En 2017, vous le savez tous, un jeune président arrive au pouvoir en France, avec pour principal projet de, je le pense, moi, liquider ce pays, la France, et de faire advenir une Europe supranationale. On le sait, Macron est un globaliste. En 2019, notre patrimoine va être frappé au cœur avec l'incendie, jamais expliqué à ce jour, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y avait encore, et je l'ai lu ce matin dans Le Figaro, un long article nous expliquant que l'on ne savait toujours pas, au bout de 7 ans, qu'était-il arrivé, et puisqu'il s'agissait à l'époque, c'était en pleine Semaine Sainte, que le feu s'est déclenché, c'était Pâques qui approchait, lorsque le feu s'est déclenché à Notre-Dame, donc on est vraiment dans une correspondance 7 ans après. Eh bien, 7 ans après, on ne le sait toujours pas, sauf qu'on est sûr que c'est un accident et que ce n'est pas volontaire, qu'il ne s'agit pas d'un incendie criminel. C'est ce qui nous est dit, et un long article qui parle pour ne rien dire, qui écrit pour ne rien dire, dans Le Figaro ce matin, on s'en faisait encore l'écho. En 2020, rappelez-vous, avec la crise sanitaire, hein, Emmanuel Macron qui annonce la venue de la bête de l'événement, Satan, hein, la bête de l'événement, dans l'eschatologie apocalyptique chrétienne, dont l'Apocalypse selon saint Jean. En 2024, ai-je besoin de vous le rappeler, la fameuse parenthèse enchantée, les infâmes Jeux olympiques de Paris de 2024 avec ses cérémonies, toutes plus blasphématoires et scandaleuses les unes que les autres, et avec des relents évidents de satanisme qui sont difficilement niables. Alors, voilà un petit peu un calendrier. Ce calendrier aboutirait-il à quelque chose? Serions-nous dans quelque chose qui irait crescendo et qui s'achèverait par eh bien, une terrible nouvelle, une frappe nucléaire, le dernier des tabous violés, car le disrupteur Macron viole les tabous, il les viole les uns après les autres. Pourrait-on imaginer qu'il n'ait pas à l'esprit de violer jusqu'à ce dernier tabou, c'est-à-dire le tabou nucléaire? C'est la question de ce livre qui vient de sortir, je le rappelle. C'est le livre de Régis Emmanuel Suire que j'ai préfacé Apocalypse 2026. Après ce trop long, cette trop longue introduction, résumée de ce dont nous allons parler dans ce Florilège des Arts, je vais tout de suite poser la première question à Régis sur son livre. Régis, une question toute bête, une question que l'on pose en général toujours à nos invités lorsqu'il s'agit de la promotion d'un livre sur Radio Courtoisie dans ce Florilège des Arts. Quelles sont les raisons principales qui ont présidé à l'écriture de ce livre, Régis?
C'était pour pouvoir compiler au maximum tous les éléments qui mènent à penser qu'une frappe nucléaire peut tomber sur Paris sur le 23 mai 2026. Pendant des années, depuis précisément l'année 2021, j'ai fait le tour de pas mal de journalistes, j'ai essayé de solliciter des personnes, on va dire, influentes, j'ai fait partie des groupes de résistance. Malheureusement, je n'ai pas trouvé un relais suffisant. Et quand en 2024, nous avons assisté aux cérémonies des Jeux Olympiques, là, il y a eu comme une ouverture d'esprit, peut-être, comme une possibilité nouvelle, comme une prise de conscience d'une espèce de parfum apocalyptique qui planait au-dessus de la capitale, voire d'un esprit satanique qui planait au-dessus de Paris. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu une oreille un petit peu plus, une écoute. Disons qu'on m'a un petit peu plus écouté. Et dans la finalité, c'était la soirée du 1er mars 2025 où je vous ai rencontré, Nicolas, En vous résumant mon affaire, qui compilait des éléments d'enquête sur un petit feuillet, et vous avez été suffisamment intéressé pour me proposer de pouvoir en faire un livre, car vous avez expliqué à juste titre que le temps de parole est limité. Je peux être invité sur une radio ou je peux être invité dans une émission, mais en une heure de temps, c'est difficile d'avoir tous les éléments à sa disposition et que le public soit attentif. Et puis, vous savez, ça va, ça vient. Mais avec un livre, on a un élément de support. Donc, c'est vrai que dans le temps qui nous est imparti actuellement, ce n'est juste, on va dire, ce sont que des prémices, ce sont juste des bases d'éléments. Mais il y a environ 300 pages d'éléments sourcés, factuels, qui viennent étayer le point que j'évoque ce matin.
Exactement, Régis. Bah, peut-être sur les différentes dates, puisque nous sommes dans cette semaine sainte, puisque c'est vendredi saint, ce 3 avril 2026, je pense qu'il serait assez logique que nous parlions des nombreuses pages que vous consacrez à Notre-Dame de Paris, à la fois à la destruction par le feu d'une partie de Notre-Dame de Paris, et puis sa réouverture après restauration, cela, eh bien, des années après, plus de 5 ans après, en 2024. C'était prévu au moment de l'ouverture des JO, ça a été finalement reporté après le mois de septembre, hein, cette réouverture. Et là, que ce soit le feu en lui-même, que ce soit la réouverture, que ce soit les polémiques pas encore éteintes sur les vitraux, qui seront remplacés des grisailles de Viollet-le-Duc en parfait état, qui avaient évité justement l'outrage des flammes, et que pourtant Macron a décidé de déposer et confier à une occultiste, Claire Tabouret, la réalisation de nouveaux vitraux dans l'allée du Saint-Esprit, dans l'allée de la Pentecôte, justement, et cette Pentecôte qui arrive très vite et dont vous faites le point central de votre prophétie. Peut-être nous parler, Régis, de Notre-Dame de Paris, de ce qui vous a interpellé sur Notre-Dame de Paris, sur le feu, et puis ensuite sur sa réouverture, parce que c'est un point central et c'est sur ce point central, pivot aussi, que nous allons pouvoir développer le sujet aujourd'hui.
Exactement. Disons que Emmanuel Macron, en 2020, quand il l'a annoncé, nous sommes en guerre. Il y avait un code derrière cette formulation. Il l'a annoncé 6 fois. Pour pouvoir assez, on va dire, je suis assez instinctif sur comment j'entends les choses, je me suis dit, là, il y a quelque chose à déchiffrer, c'est pas normal. Et ensuite, le mois suivant, comme vous l'avez dit, il a annoncé la bête de l'événement. Donc, on était dans dans une période apocalyptique avec la peste qui était là. On nous disait qu'on allait tous mourir du Covid. Et en réfléchissant à ce symbole de Notre-Dame qui brûle, je suis effectivement revenu en arrière. J'ai vu Notre-Dame comme une sorte de flambeau apocalyptique qui s'allumait. Donc, j'ai regardé effectivement le calendrier et en prenant Emmanuel Macron comme, on va dire, point de départ, il m'est apparu un chiffre qui revenait souvent autour du président, que l'on pourra parler un peu plus tard, mais ce chiffre, c'est le chiffre du diable et c'est le chiffre 666. Et Emmanuel Macron, quand il a été élu président, on se souvient certes, il a fait son symbole maçonnique devant la pyramide du Louvre, qui pouvait déjà interpeller quant à ses intentions, mais c'est surtout aux législatives, quand il a eu les pleins pouvoirs à l'Assemblée, qu'il a réellement pu appliquer sa loi. Que Jupiter, puisque c'est comme ça que les médias le nommaient, Jupiter oui. A pu s'imposer pleinement avec tout son pouvoir, que ce soit à coup de 49-3, ou en tout cas, il s'est imposé dans sa loi, et c'est à ce moment-là, dans le calendrier, que j'ai vu que Notre-Dame avait brûlé exactement 666 jours après, le 15 avril 2019. C'est un élément.
666 jours après le second tour des élections législatives qui donnent les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, sur le temple de la loi, temple maçonnique, le palais Bourbon, on le sait, bourré de symboles maçonniques, eh bien, 666 jours après, brûle le temple de la foi.
Exactement. Et c'est, en fait,
Notre-Dame.
Il faut comprendre un raisonnement d'ordre satanique ici, c'est-à-dire on parle de l'inversion des choses. Parce que voir une différence de 600, un écart de jours de 666 jours, c'est pas intéressant en soi. Ce qu'il faut voir, c'est mettre des correspondances en face. Quand on a Emmanuel Macron qui s'installe dans son temple de la loi, le temple de la foi est détruit, mais pas à n'importe quel moment. Il est détruit au moment de la résurrection du Christ. C'est Pâques, c'est la résurrection. Et au lieu d'une résurrection, on a la mort de la chrétienté, c'est une mort symbolique, mais Notre-Dame, c'est ce que ça a représenté pour beaucoup de chrétiens, la mort de la chrétienté. Donc on a un écart vraiment de 666 jours, et il faut raisonner maintenant en termes de calendrier qui se poursuit et en termes de relais. Il y a oui. deux moments forts dans la vie, on va dire, politique d'Emmanuel Macron. Il y a le moment où il peut appliquer ses pleins pouvoirs. C'est de l'ordre du matériel, c'est de l'ordre du politique, c'est de l'ordre du physique.
Et ensuite, c'est en 2017.
C'est en 2017. Et ensuite, on fait un saut jusqu'en 2024, qui est l'année jupitérienne par excellence. On a le signe astrologique de Jupiter qui ressemble au chiffre 24. Et on a cette fameuse, toutes ces cérémonies des Jeux Olympiques dont nous pourrons reparler. Mais on a à ce moment-là l'idéologie de Jupiter, c'est-à-dire c'est la foi de Jupiter, son idéologie qui est exposée à la vue du monde entier. Et il faut comprendre...
Avec la cérémonie d'ouverture, entre autres, hein, le LGBT, le woke, et puis toute cette idéologie globaliste, mondialiste, qui que drainent les Jeux Olympiques et la cérémonie.
Et il y a même bien plus.
Oui.
On a assisté à ces cérémonies comme la mort de la chrétienté, encore une fois. C'est ce qui nous a été signifié. On a vu la scène qui est le dernier repas du Christ, on a vu la mise à mort de la chrétienté, on pourra revenir dans le détail, mais surtout on a vu comme une résurrection, c'est-à-dire une substitution d'un Messie pour un autre Messie. On a vu ce fameux cavalier de la mort qui a couru sur la scène, il marche sur l'eau comme le Christ, et ce cavalier de la mort, quand il passait sous les ponts, il y avait des ailes qui s'illuminaient, et ensuite il y avait même un point culminant avec cette tour Eiffel qui s'embrase, et on voit ce cavalier qui arrive au Trocadéro, il arrive avec tous les peuples et toutes les nations qui le suivent.
Lui sont soumises, ce cavalier de l'Apocalypse, ce quatrième cavalier de la mort, qui en effet, triomphant, arrive avec derrière lui un peu l'image de nations défaites, de nations certes qui vont concourir à des jeux, mais les nations en tant que patrie, en tant qu'État-nation, sont défaits dans l'idéologie macronienne, supranationale et globaliste.
Et c'est complètement à l'inverse d'un esprit christique, c'est-à-dire on est vraiment dans un esprit antichristique. Toutes les nations sont en ordre de marche derrière ce personnage de type luciférien, car c'est cela que signifient les ailes qui s'illuminent, ces ailes d'un ange déchu qu'il retrouve. On a d'ailleurs un clip vidéo au moment où le cavalier court sur la scène avec le mot « résurrection » qui apparaît. Donc on a comme une résurrection d'un Messie déchu au détriment d'un autre qui lui est tué et crucifié. Et donc toutes ces nations en ordre de marche qui vont vers le veau d'or, on le voit sur la place du Trocadéro, avec ensuite une image finale d'une vasque olympique qui s'élève. Mais ce que je voulais mettre en évidence dans ce calendrier, ce sont les correspondances, c'est-à-dire il faut raisonner en termes de miroir. On a en 2017, on a la loi de Jupiter qui s'applique. Et on a en 2024 comme la foi de Jupiter qui est démontrée, qui est exposée à la face du monde entier.
7 ans après.
Et je suis assez friand de Carl Gustav Jung et de tout ce qu'il a pu exposer. Et pour moi, la conscience et l'inconscient, ça a une réalité. On a des actes, on a ce que l'on fait en pleine conscience, et puis on a ensuite ce qui est caché, et ce qui est de l'ordre également du spirituel, et qui est bien plus puissant. Et le danger que je vois à travers ce risque nucléaire qui pourrait frapper la capitale, c'est que dans le calendrier qu'il nous a été donné à voir, si vous prenez l'incendie de Notre-Dame comme point de départ, et que vous faites un bond de 5 ans. 5 ans, c'est une durée également qui est symbolique, c'est la durée du mandat présidentiel. Mais si vous vous souvenez bien, Emmanuel Macron s'est emparé de Notre-Dame du moment de sa destruction jusqu'à sa réouverture.
Totalement, c'était devenu son grand chantier. C'est le grand chantier présidentiel, c'est la rénovation de Notre-Dame, avec à la clé, il a essayé de tenter un certain nombre de sacrilèges, en particulier Brigitte Macron, dont on sait qu'elle avait cherché à transformer la flèche qui était tombée de façon dramatique lors de l'incendie par une espèce de phallus érigé, dressé en or, avec des espèces de grosses boules à la base de cet axe, de cette espèce de phallus en or, tout à fait épouvantable, mais qui correspondait parfaitement, je dirais, au fantasme, et peut-être plus encore, de celle qui était, et qui est toujours d'ailleurs, l'épouse du président de la République.
C'était effectivement pour mettre comme un parfum de scandale au-dessus de Notre-Dame, rendre la foi inopérante. La cathédrale, elle était fermée, donc les prières étaient devenues impossibles. Et quand la flamme olympique s'est allumée à Olympie en 2024, ils ont choisi, alors on va dire c'est un hasard, ils ont choisi le jour des 5 ans de l'incendie de Notre-Dame. La flamme s'est allumée à Olympie le 15 avril 2024. Or,
vous voyez une correspondance, hein, Régis, entre le feu de Notre-Dame et la flamme olympique, c'est bien ça.
C'est un relais olympique. C'est un relais olympique. C'est-à-dire qu'on est dans l'image du feu, l'image qui détruit, une image de type luciférienne, puisqu'on est carrément parmi les dieux. On parle de Messie, on parle de Jupiter, on parle de résurrection d'entité. Et pour bien comprendre que la flamme olympique est en lien avec Notre-Dame, on a eu la bourse de Copenhague, qui a brûlé également quand la flamme olympique s'est allumée en Grèce. Et la bourse de Copenhague ressemble à Notre-Dame dans l'image. Il y avait une flèche et la flèche s'est écroulée et les médias s'en étaient emparés en disant « Un drame nous rappelle Notre-Dame, la bourse de Copenhague qui s'effondre ». Et cette Exactement. Flamme olympique, ensuite, elle a suivi son petit bonhomme de chemin jusqu'à Paris avec la cérémonie d'ouverture. Et donc, comme nous avons assisté là à la cérémonie d'ouverture, à la foi de Jupiter, l'idéologie de Jupiter qui a été exposée, mais on a vu que ça passait par la mort du Christ, et on a vu que le peuple de Jupiter était en ordre de marche derrière lui, là où je fais un système de correspondance, c'est que 666 jours après la cérémonie des Jeux Olympiques, d'ouverture, on tombe sur la Pentecôte 2026. Et la Pentecôte 2026...
On tombe exactement sur cette date fatidique pour vous du 23 mai 2026.
Exactement. Il y a deux temps forts, si on raisonne par rapport à la chrétienté. Il y a Pâques, la résurrection du Christ, et il y a la Pentecôte, qui est la descente de l'Esprit-Saint sur les
50.
Fidèles.
50 jours après, tout à fait. Pinta, c'est 50. Pentecôte, oui, tout à fait. 50 jours après.
On a vu pour Pâques 2019 ce que ça a donné. Au lieu d'une résurrection, on a eu droit à la mort de la chrétienté. Donc, je me pose la question, si on est dans un relais qui nous mène à la Pentecôte 2026, et ce relais, d'ailleurs, il est véhiculé toujours actuellement avec les vitraux de Claire Tabouret. C'est-à-dire que même malgré la réouverture de Notre-Dame, le discours de Macron, et malgré qu'on aurait dû tourner la page Notre-Dame, il y a toujours en suspens comme un relais avec Notre-Dame et cette histoire de vitraux sur la thématique de la Pentecôte et de l'Esprit-Saint qui s'abat sur les fidèles. Or, l'Esprit-Saint qui s'abat sur les fidèles, dans un esprit profane, ne peut passer que par la science, parce qu'il n'y a pas d'esprit dans un système d'ordre luciférien. Et mon analyse est que un esprit saint qui s'abat sur les fidèles, sur le peuple, c'est ce que veut dire la Pentecôte, c'est-à-dire on établit l'Église. Un esprit saint qui s'abat sur les fidèles dans un esprit profane, c'est la bombe atomique.
Alors voilà, c'est ça, c'est des correspondances entre le spirituel et le matériel, sachant que les forces diaboliques, les forces sataniques, essaient toujours de tirer le spirituel vers le matériel, bien sûr. C'est le propre du satanisme. Je rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie, et je le montre parce que j'ai ce livre justement, entre les mains, Nicolas Stocker présente Apocalypse 2026, un livre de Régis Emmanuel Suire. Voilà, ce livre, je l'ai Entre les mains. C'est un livre que vous pouvez retrouver à 29 euros. Hein, voilà. Ce livre, vous pouvez le retrouver sur Book Edition. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, bien sûr. C'est le meilleur moyen. Et bien, petit à petit, durant sa promotion, nous n'hésiterons pas aussi à aller le distribuer dans les librairies. 50 jours, Régis, c'est le temps que vous avez, justement, puisque vous avez décidé de débuter cette promotion sur ce jour si symbolique du Vendredi Saint. C'est le premier jour de la promotion de ce livre aujourd'hui dans les médias. Ça sera suivi par une émission aussi demain soir à partir de 19h sur Géopolitique Profonde TV, un entretien avec Mike Borowski demain soir, samedi 19h, pour ceux que cela intéresse. Et tout de suite, donc, ce livre, je le dis pour les auditeurs qui ne sont que dans l'écoute et qui voudraient acheter, se procurer ce livre, hein, le livre, eh bien, il est de Régis-Emmanuel Suire, S-U-I-R-E, Régis-Emmanuel Suire, Apocalypse 2026, c'est facile, c'est très facile à retenir. Il nous reste 3 minutes avant le bobino. Régis, est-ce qu'il y avait quelque chose d'important, parce que nous allons développer un peu la force du chiffre 666, la notion d'égrégore quand vous parlez d'atmosphère au-dessus justement de ces cérémonies. Est-ce que déjà, auparavant, vous avez 3 minutes pour développer un point précis que vous vouliez absolument porter à l'attention des auditeurs?
J'ai parlé du parfum apocalyptique. Et il y a comme 4 cavaliers de l'Apocalypse qui semblent avoir été déployés depuis 2020, quand le président français nous a dit « nous sommes en guerre ». Je me suis posé la question « nous sommes en guerre contre qui ?». Et je me suis souvenu qu'un an auparavant, on va dire c'était concomitant avec l'incendie de Notre-Dame, il y avait une couverture Vie Économiste qui montrait 4 cavaliers de l'Apocalypse au-dessus de la France. Et en faisant mes recherches sur l'Apocalypse, j'ai, on va dire, dans une interprétation disant qu'elle durait 7 ans. Et donc, si on doit déployer 4 cavaliers pendant ces 7 ans, je me suis dit, donc nous avons la peste avec le Covid. Fin 2021, j'avais anticipé un cavalier de la guerre et nous avons eu l'Ukraine. Ensuite, j'avais anticipé la famine, ne sachant pas trop bien voilà, comment elle allait se déployer. Un indice nous a été donné à la fin de l'année dernière avec l'ONU déclarant l'état de famine officiellement à Gaza, chose inédite depuis 2011. Et dans mon calcul, le calendrier nous amenait vers le cavalier de la mort pour 2026-2027. Et je me demandais quelle serait cette mort. Et malheureusement, mon analyse s'est portée sur la destruction atomique de Paris.
La destruction atomique de Paris pour le 23 mai 2026. Je vous propose, Régis, de laisser passer ce très court bobino et on revient tout de suite après, si vous le voulez bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, n'hésitez pas, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à aider votre radio de cœur, votre radio préférée, Radio Courtoisie. Et vous êtes justement dans ce florilège des arts sur Radio Courtoisie. Et nous avons la chance de recevoir l'auteur d'Apocalypse 2026, de Régis-Emmanuel Suire, livre que vous retrouvez en book edition sur Amazon. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Je reviens vers vous, Régis, sur justement ces... Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'efficience ? Efficience du 666, efficience d'intention. L'égrégore, c'est un esprit de groupe qui génère des intentions. C'est un petit peu comme les prières, sauf que ce sont, dans un cas maléfique, des rituels, de la magie noire, une sorte d'égrégore qui fait se précipiter un événement, qui aboutit à un événement, qui permet de le synchroniser, cet événement, sur un lieu et un espace, à un moment donné. Et vous dites, c'est le 23 mai 2026, que cet égrégore, qui est né peut-être avec Notre-Dame en feu, en 2019, eh bien, aboutirait à ce feu qui tomberait du ciel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, pour vous, pourquoi un ski, pour d'autres, serait un simple chiffre, et plus qu'un chiffre, le 666, et un égrégore, c'est-à-dire plus qu'une atmosphère, mais quelque chose qui a une véritable capacité de s'imprimer dans le réel, en fait.
Nous avons, avec le président de la République, le nombre 666 qui est véhiculé, et cela dès le départ, dès qu'il est élu président en 2017, avec son score présidentiel de 66,06%. Chiffre qui a été arrondi ensuite à 66,1%. Certaines personnes, comme Christine Boutin, s'étaient émues de voir le chiffre du diable dans le score du président. On s'était moqué d'elle, sauf que c'était pertinent, car effectivement, ce chiffre est revenu assez souvent autour d'Emmanuel Macron, que ce soit par ses actes. Par exemple, on se souvient qu'il avait payé, il avait subventionné 666 millions les médias, donc c'était un chiffre bien trop précis. Il avait également utilisé un scooter des maires au fort de Brégançon. La presse avait diffusé les photos, un scooter immatriculé 666. Donc en cherchant un peu plus autour de ce président, quels pouvaient être les autres chiffres du 666 qui nous étaient montrés, le calendrier, notamment lors de la crise Covid, m'a également donné une réponse. Il y a eu deux décrets pour nous imposer le port du masque Covid. Un premier donc pour nous l'imposer, le deuxième pour nous l'enlever. Et il y a 666 jours d'écart entre les deux dates. Donc là, ça interpelle. Et quand on comprend que Notre-Dame a brûlé 666 jours après les pleins pouvoirs de Macron et que Macron met l'insistance sur les Jeux Olympiques et sur l'insistance que Notre-Dame soit réouverte pour les Jeux Olympiques, on se dit que pour les Jeux Olympiques, il y a une intention. Donc j'avais anticipé, avant même que l'on annonce que la cérémonie aurait lieu en plein cœur de Paris sur la Seine, j'avais anticipé qu'elle aurait lieu en plein cœur de Paris avec Notre-Dame dans le champ de vision, car il y avait comme une volonté de retrouver Notre-Dame à l'occasion des Jeux Olympiques. Normalement, une cérémonie d'ouverture se passe au Stade de France. Et là, ça n'a pas été le cas. Et vous vous souvenez vraiment des énormes efforts qu'ils ont déployés pour pouvoir organiser en dépit de toute logique. Il y avait un risque sécuritaire, il y avait vraiment... c'était quasiment absurde de vouloir... de faire une cérémonie d'ouverture sur la Seine. Mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait car c'était, selon moi, pour pouvoir cibler un esprit chrétien. C'est ce que cela représentait, cette cérémonie. C'était comme une mort de la chrétienté. Notre-Dame était dans le décor. Et, pardon, il faut également... avec un petit verre d'eau, ça serait mieux. Il faut également penser que nous avons eu des milliards de téléspectateurs qui ont assisté à cette cérémonie et des milliards d'intentions qui ont été envoyées à cet instant précis. Et c'est le principe d'un égrégore, c'est-à-dire qu'on a une énergie, une masse de pensées qui est créée par... vous avez évoqué les prières, mais les prières peuvent être détournées et l'intention peut être détournée. Et dans le cas présent, merci beaucoup. Dans le cas présent, nous avons effectivement une intention de mort qui a été captée, une intention de résurrection de type luciférienne qui a également été déployée, et donc une énergie qui plane là en suspens et qui est quelque part le point de départ, un compte à rebours qui court toujours. Je vous ai expliqué le relais apocalyptique précédemment, et ce compte à rebours pourrait être, on va dire, détenu, pourrait être lancé par le maître des horloges, c'est-à-dire Emmanuel Macron lui-même. Le cavalier de la mort portait son nom, il portait le nom de Zeus. Zeus, c'est le nom grec du nom romain Jupiter. Donc si le chiffre 666 est véhiculé autour d'Emmanuel Macron et quand la foi jupitérienne a été exposée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on peut imaginer, à l'image du couple de dates 2017-2019 qui a donné lieu 666 jours plus tard à la destruction de Notre-Dame, on peut imaginer que ce compte à rebours est partie de la cérémonie d'ouverture des JO pour aboutir 666 jours plus tard par la destruction de la ville qui représente la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire, si la capitale française est détruite, c'est comme si sa tête tombait. C'est comme si elle était, c'est comme si la France était décapitée.
Il y a des... Décapitation, et Dieu sait, par exemple, dans la cérémonie des JO, combien ils ont cette fâcheuse tendance à montrer la décapitation, la honteuse décapitation de Marie-Antoinette. C'est au début de la cérémonie d'ouverture, rappelez-vous, où elle tient tel Saint-Denis. Sa tête dans les mains, hein, c'est tout à fait horrible, et c'est comme ça qu'il débute l'histoire de France, hein, c'est un véritable sacrilège, un révisionnisme historique dont les organisateurs de cette cérémonie de JO se sont ce à quoi ils se sont livrés. Vous avez aussi cette déesse Niké, hein, la victoire proche d'Athéna, sauf que d'Athéna, elle en a la lance, mais pas le bouclier qui protège. C'est le bouclier qui protège Athéna, avec l'égire, protège Athènes. Mais voilà une Niké réduite d'Athéna qui ne protège plus, mais qui a la lance du missile, presque, pourrait-on dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une lance aujourd'hui dans l'art de la guerre moderne, si ce n'est justement le missile balistique, le missile qui vient frapper, et pourquoi pas nucléairement. Donc, vous avez en effet cette forme de décapitation, comme si, eh bien, par une sorte d'égrégore, de prière négative, on amenait, et avec une puissance considérable, puisque c'est plus d'un milliard de téléspectateurs. Le nombre de téléspectateurs est considérable, qui ont vu justement ces cérémonies, et qui ont pu y imprimer, en effet, leur intention, dites-vous.
C'est ça, et on peut même parler de magie dans le cas présent, une magie assumée par les organisateurs eux-mêmes. On a vu donc ce cavalier que l'on a appelé, nous chrétiens, un cavalier de la mort. Les organisateurs nous ont expliqué que nous étions des imbéciles, qu'on n'avait rien compris, et qu'il s'agissait de la déesse Sequana, une déesse gauloise qui répond aux prières des fidèles. Sauf que, en nous donnant cette explication, ça accable le sujet, parce que la déesse Sequana va justement récupérer dans l'eau les prières de ses fidèles. Cela veut dire quoi? Là, on a eu des milliards d'intentions qui ont été envoyées, et donc la scène centrale, on va dire, c'était la scène. C'était l'argument de base pour la cérémonie, c'est les bateaux qui défilent sur la scène. Or, ces intentions, de façon inconsciente pour les spectateurs, mais de façon consciente quand on analyse les images et les symboles, c'était des intentions de mort. Et ça, on l'a du début à la fin. On l'a depuis le début avec des enfants qui représentent l'avenir de la France, qui sont dans des catacombes avec des squelettes, des têtes de mort. Ils sont embarqués par un personnage encapuchonné comme la mort sur une barque et qui, dans ce contexte mythologique olympique lié à Zeus, renvoie à Hadès, son frère, renvoie aux enfers, renvoie, puisque l'on parle du fleuve de la Seine et d'un contexte mythologique, renvoie, si l'on parle des enfers, au Styx, c'est-à-dire le fleuve des morts. Donc on a ce passeur d'âme qui embarque les enfants, à qui il donne 3 gilets de sauvetage de couleur bleu, blanc, rouge, symbolisant la France. Et on a ensuite toutes les nations qui défileront sur ce fleuve, et on se pose la question de savoir, finalement, n'assistons-nous pas à une mort symbolique de toutes les nations, de tout un peuple? Et donc cet égrégore créé avec cette image de mort, on voit sa finalité à la fin de la cérémonie. Une fois que le cavalier de la mort, il a ramené toutes les nations, on voit sur la tour Eiffel qu'il y a des ailes qui peuvent représenter cet ange déchu Lucifer. La tour Eiffel qui s'illumine dans un faisceau de réseau laser où on a l'impression de voir le sigil de Lucifer, c'est-à-dire son sceau et sa signature. Et la conclusion de la soirée qui est une chanteuse revenue d'entre les morts, Céline Dion, qui n'était pas apparue depuis plusieurs années. On se demandait, mais va-t-elle réussir à chanter? Et elle s'est mise en plein cœur de la tour Eiffel, représentant quelque part toute la nation française pour chanter une chanson de la mort. L'hymne à l'amour, ça peut être aussi l'hymne à la mort. C'est assez voisin sur le plan de la phonétique. Et elle y raconte la mort de son amant perdu. Et peu importe si on s'aime, car au ciel il n'y a plus de problème, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Et on voit à ce moment la vasque olympique qui s'élève. Et dans une lumière, car c'était le principe de cette vasque olympique, c'était un ballon enflammé au-dessus de la capitale française. Mais si on raisonne en termes d'égrégore, si on raisonne en termes de magie assumée par les organisateurs avec Sequana qui vient chercher les vœux, et on voit cette vasque olympique enflammée, et quelque part, on retrouve une image de champignons atomiques derrière cette vasque olympique. C'est une boule de feu au-dessus de la capitale.
C'est ça, qui s'élève comme un champignon nucléaire, tout à fait.
Pour illuminer toute la cité. Et donc, si on raisonne en termes de sceau 666, imaginons comme un sceau placé à ce moment précis, et un sceau qui peut être, qui courrait sur 666 jours, il se pose la question de pouvoir savoir quand sera la récolte de ce vœu, c'est-à-dire cette espèce c'est de ça. Boule d'énergie, à quel moment Sequana répondra aux prières et à quel moment le maître des horloges, dont on a vu que toute la cérémonie était chapeautée par Emmanuel Macron et le couple présidentiel, à quel moment nous aurons finalement l'aboutissement, la conclusion, l'explosion de cet égrégore, qui est pour l'instant
exactement.
En suspens.
Exactement, Régis. Exactement. Régis Emmanuel Suire, le livre Apocalypse 2026, Suire, Suire, que vous retrouverez, chers auditeurs, Book Edition. Il y a dans ce livre, mon cher Régis, aussi des éléments d'exclusivité, des découvertes qui, on va le dire, n'appartiennent qu'à vous, ou en tout cas, dont vous avez été le seul réellement à, dans le livre, livre qui fait plus de 300 pages, hein, tout de même, voilà, plus de 300 pages avec la table des matières. C'est dense, c'est riche, c'est touffu, c'est vraiment un livre où il y a énormément de révélations. Alors, puisqu'il nous reste à peu près un quart d'heure dans cette émission, j'aimerais, sur 5 minutes chacune, 3 éléments vraiment de révélations importants qui vont vous donner envie, chers auditeurs, je pense, de vous procurer cet ouvrage. Le premier, c'est 2019, le feu de Notre-Dame. Vous êtes un des seuls à noter quelque chose qui tendrait à démontrer que l'on nous cache réellement quelque chose. Et que, tout de suite, hein, c'est évacué dans les articles, encore je vous disais ce matin, l'article du Figaro, on évacue en disant « les complotistes disent que un fou aurait mis le feu ». Les complotistes étant eux-mêmes fous à Notre-Dame. Bon, ce qui est, et après, vous avez 10 pages où le journaliste écrit pour ne rien dire dans le Figaro, pour ne rien dire, en disant, de toute façon, ils évacuent la piste criminelle et tout de suite vont vers l'accidentel. Il y a un élément dont vous parlez sur Notre-Dame de Paris en feu, qui a été caché, probablement sciemment, par les médias, et dont vous faites la révélation, c'est cette fameuse réunion qui se déroule au moment même où le feu se déclare. Expliquez-nous un petit peu ça, Régis.
Exactement. Dès le soir de l'incendie, on nous a dit « c'est accidentel ». Ça fumait encore, Notre-Dame. Les ruines étaient encore fumantes, et on nous dit « c'est accidentel ». Donc, qui est réellement fou dans cette histoire ? Dans un contexte où la France venait de subir des attentats récents. Il y avait eu Charlie Hebdo, il y avait eu le Bataclan. Et là, on nous dit d'emblée, c'est accidentel, il n'y a rien à voir. Alors, effectivement, on n'a pas vu tout de suite. On va dire, quel serait le mobile, qu'est-ce qui pourrait vraiment justifier voilà. De mettre le feu à Notre-Dame. Mais quand, pendant la crise Covid, j'ai recherché les éléments et j'ai trouvé l'occurrence du chiffre 666, dont l'une de ces occurrences pointait sur l'incendie de Notre-Dame, j'ai regardé d'un petit peu plus près l'incendie de Notre-Dame. Et il y a un élément, comme vous le dites, qui n'a pas du tout été relayé, c'était qu'il y avait des personnes présentes au niveau du toit quand le feu s'est déclaré. Et ça n'a jamais été évoqué. Les tours de Notre-Dame se visitent. Jusqu'à 18h30. Or, ce lundi 15 avril 2019, le public a été évacué une heure plus tôt que la normale. À 17h30, les tours étaient fermées. Un internaute s'était étonné. Il a contacté le journal Libération en lui posant la question « Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les tours de Notre-Dame ont-elles été fermées une heure plus tôt que la normale le soir de l'incendie ?» Libération a été très réactif. Ils ont pu contacter des personnes du tac au tac, mener une enquête éclair et ils ont publié le jour même une réponse. La réponse était que l'évacuation du public était pour permettre une réunion des membres du Centre des Monuments Nationaux dans la tour haute dévolue aux visites. Le soir, donc elle a eu lieu le soir de l'incendie, entre 17h30 et 18h30. Il faut savoir que l'alarme a retenti une première fois à 18h18, pendant le créneau horaire de cette réunion. Donc Libération met dans sa page une page Check News toujours disponible en ligne et dont je mets le lien dans le livre. Ils nous disent « De toute façon, il n'y a rien de louche dans cette réunion. Elle avait été prévue 15 jours à l'avance. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et la réunion était finie au moment où le feu s'est déclaré. Circuler, il n'y a rien à voir. » Et les interlocuteurs de Libération sont anonymes. On ne sait pas qui c'est. Donc ma question, c'est l'enquête. Est-ce qu'on parle de ces personnes dans l'enquête? L'enquête est complètement opaque, l'enquête court toujours, on n'en sait rien sur cette enquête et devant l'improbabilité pour que le feu soit accidentel, le mégot pas possible, le court-circuit pas possible, un outil oublié par les ouvriers pas possible, tout a été complètement invalidé par les différents experts, analyses et même Benjamin Mouton qui le soir de l'incendie disait que c'était de l'ordre de l'impossible et qu'on n'a plus jamais revue. Donc ma suspicion se porte sur ces membres du Centre des Monuments Nationaux. J'aimerais savoir qu'en dit l'enquête? Ont-ils été interrogés? Ils travaillent pour le gouvernement, c'est rattaché au ministère de la Culture, donc il doit y avoir des emails de convocation, on doit avoir des noms, il doit y avoir un ordre du jour, il doit y avoir des éléments pour pouvoir permettre, vérifier ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire qu'ils sont sortis des tours avant le départ du feu. Et de tous ces éléments, nous ne savons rien du tout.
Exactement. Et nous ne savons rien du tout. Un autre point sur lequel eh bien, les choses ont été très peu relayées, on a beaucoup parlé dans les cérémonies des JO, de la cérémonie d'ouverture, infâme cérémonie s'il en est, cérémonie de clôture aussi des JO avec celui qui était prénommé par les organisateurs de la cérémonie Golden Voyager dont il disait c'est l'esprit de la liberté, on le sait, lorsque vous êtes sur la place de la Bastille, vous avez au cœur de la place de la Bastille cette statue de celui qui est en fait Lucifer avec l'étoile du matin et au-dessus de la tête, les chaînes qu'il brise, et ils le disent en quelque sorte, ils l'avouent, alors à très vite ils l'ont mis ensuite sous le boisseau parce que des personnes avaient connaissance de ce pari ésotérique et que ce pari ésotérique, l'esprit de la liberté qui est place de la Bastille est en fait Lucifer. Donc il y a aussi cet aspect luciférien qu'on retrouve avec les momies aussi, les momies qui se trouvent sous le mausolée justement place de la Bastille qui avait été ramenée en son temps de campagne d'Égypte par l'empereur Napoléon. Celui qui serait plus tard l'empereur Napoléon, bien sûr, le général Bonaparte. Et donc vous avez aussi, donc vous avez ces cérémonies. Il y a une cérémonie sur laquelle finalement il y a eu très peu de d'écho et qui pourtant est plus démoniaque peut-être encore que les précédentes. C'est ce qu'on a appelé le, je suis désolé, on est sur Radio Courtoisie, mais c'est ainsi que les organisateurs des manifestations des JO ont parlé. Donc je suis bien obligé d'employer ces termes en l'occurrence. C'est le terme de pré-show. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette troisième cérémonie un petit peu oubliée et qui parfait l'œuvre démoniaque de ces JO et de ces cérémonies?
Exactement, c'est comme un complément d'enquête. C'est un spectacle qui s'est tenu devant la basilique Saint-Denis, là où sont enterrés les rois de France, qui représentent l'héritage du Christ depuis Clovis, le premier roi de France. On a donc une mise en scène délibérée de ce spectacle rattachée à la cérémonie d'ouverture. C'est le chanteur Slimane qui interprète un personnage, qui mène ce spectacle de bout en bout. Et on a dès le départ comme une volonté de luciférienne d'exposer ce que j'appelle moi un ange déchu et un personnage de Lucifer, où on a Slimane qui sort avec une lumière aveuglante, parce que c'est ce que veut dire Lucifer, le porteur de lumière, des colombes qui s'échappent de l'église, et on a une mise en scène, quelque part, comme de la mort de l'église, là encore. C'est-à-dire qu'avant même la cérémonie d'ouverture, on a ça dans ce pré-show, avec l'église qui est malade, c'est ce que le chanteur chante. Et ensuite, il y a des danses où il se contorsionne avec des miroirs, il se grime dedans. On est dans le passage d'un monde à un autre. C'est ce que veut dire le miroir, c'est la transgression satanique. Et le chanteur s'arrête à un moment dans la chorégraphie pour faire le signe de croix inversé. Il finit avec la main sur sa gorge. Donc, c'est la représentation du souffle coupé ou de la décapitation. Et il s'empare juste ensuite d'un éventail pour pouvoir retrouver une sorte de souffle mécanique, et il pointe ensuite du doigt le toit de la mairie de Saint-Denis qui est juste à côté de la basilique, et là-haut sur ce toit se trouve un ange avec un personnage avec des ailes, et ces ailes sont en miroir pour rappeler la transgression d'ordre satanique, et cet ange peut être interprété comme un ange luciférien, et on a là la bascule, la sortie de l'église en début de spectacle pour finir sur le toit de la mairie républicaine. Donc c'est réellement un message qui nous est donné. Et dans la cérémonie de clôture, on a encore ce personnage luciférien, dès le poster avec un voyageur, ce bonhomme doré qui tombe du ciel, et ensuite ce voyageur doré dont on nous dit effectivement que c'est le génie de la liberté, sauf que le génie de la liberté, c'est Lucifer.
Tout à fait. Et il nous reste à peine 5 minutes, Régis, pour cette dernière révélation sur justement cette date, hein, 666 jours après la cérémonie d'ouverture des JO. Vous avez ce 23 mai, Pentecôte 2026. Eh bien, vous avez constaté que ce jour précis, ce 23 mai 2026, eh bien, quelque chose de tout à fait étonnant se déroule actuellement, et nous en avons eu la conclusion dernièrement. Il semblerait que certains veuillent se mettre à l'abri, puisque nous avons un auditeur, d'ailleurs je suis pas très content de l'humour un peu facile de cet auditeur, qui nous accuse de faire un égrégore négatif le jour du Vendredi Saint, en disant qu'il allait s'enterrer dans le jardin et qu'il avait très très peur, mais qu'en fait nous étions très négatifs parce que nous entraînions la peur et la mort dans ce genre de choses. Bon, bah, si cet auditeur que je connais par ailleurs, enfin en tout cas c'est pas la première fois qu'il m'envoie des messages pendant les émissions, pense que justement on est en train, nous, à notre petit niveau, Régis, de faire des égrégores négatifs, imaginez cher auditeur, ce dont on parle. Cérémonie vue par plus d'un milliard de personnes. Et là, vous pensez que ces mêmes égrégores négatifs, lorsque c'est Radio Courtoisie et un animateur et un invité, ce serait horrible, ce serait un scandale. Par contre, vous passez par pertes et profits plus d'un milliard de personnes, vous plaisantez. Enfin, je sais pas, résolvez les contradictions qui sont les vôtres quand même, cher auditeur. Excusez-moi de vous le dire, c'est rare que je me fâche comme ça, mais là quand même. Ce 23 mai justement, 666 jours après le jour de cérémonie d'ouverture des JO, vous avez constaté qu'un spectacle, un grand spectacle des pains et des jeux, eh bien, allait être annulé. Et ça vous a surpris. Expliquez-nous, Régis.
Exactement. Juste en 10 secondes, je vous remercie pour cette réponse à cet auditeur. L'idée, c'est absolument pas de faire peur, mais de casser un égrégore et d'avoir cette prise de conscience. Car si un égrégore existe bel et bien, de toute façon, il est en train de courir. Donc, il faut absolument en prendre conscience pour pouvoir s'y opposer. Concernant un événement qui était attendu au Stade de France le 23 mai 2026, il a été décidé en mars 2025 de placer la finale de la Coupe de France ce samedi 23 mai 2026. Le souci, c'est que je n'ai jamais arrivé en 28 ans.
Alors 2 minutes, ans. Régis, on a vraiment un direct pile, 2 minutes, allez-y, en 2 minutes.
Avons donc le gouvernement est intervenu auprès de la Fédération française de football à l'été 2025 pour lui demander de changer la date ou de délocaliser l'événement. La raison invoquée, des travaux RER. Sauf que les travaux RER n'ont jamais empêché des événements de se tenir, notamment au Stade de France. Et on peut se poser la logique de demander à délocaliser un événement à 500 km en province pour éviter des problèmes de transport aux Parisiens. Ça n'a strictement aucun sens. Et donc Philippe Diallo, qui est le président de la Fédération française de football, a dit non, je maintiens l'événement au Stade de France. Les négociations ont duré 9 mois, au point que ce n'est même plus le ministère des Transports qui était en négociation avec la Fédération française de football pour faire décaler la date soit du match, soit des travaux, mais c'est le ministère de l'Intérieur et le Premier ministre qui sont intervenus pour obliger la Fédération française de football à placer l'événement la veille, soit le 22 mai au Stade de France. Et je conclurai en disant qu'Emmanuel Macron n'a jamais manqué l'événement. Il a assisté aux 9 précédentes finales de la Coupe de France. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une volonté délibérée pour qu'il ne soit pas à Paris le 23 mai 2026? J'aimerais que la Fédération française de football et Philippe Diallo viennent s'expliquer là-dessus et pourquoi pas les membres du gouvernement.
Eh bien voilà, merci Régis Emmanuel Suir. Hein. Il semblerait que si cet auditeur, lui, ne croit pas dans ses prophéties, il y en a qui y croient, semble-t-il, jusqu'au président de la République, qui fera en sorte de ne pas être à Paris au stade de football, le grand stade de Saint-Denis, le 23 mai au soir. Étonnant quand même, en effet. Écoutez, je vous propose, chers auditeurs, puisque cette émission s'achève, de vous rappeler le livre de Régis Emmanuel Suir, S-U-I-R-E, ce livre que j'ai préfacé, Apocalypse 2026, et vous pouvez le procurer en version papier ou version numérique sur Amazon ou sur Book Edition. Un grand merci, Régis Emmanuel, pour la participation à cette émission. Un vendredi saint que je vous souhaite heureux et dans le recueillement, et un week-end de Pâques qui approche. Merci beaucoup Régis.
Merci beaucoup,
chers auditeurs, de votre écoute. À très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts, dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 3 avril 2026, de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.